Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Urbania et l'actualité. Au programme, par-delà l'histoire de Catherine Fournier, assiste-t-on à de la récupération politique? Et pour en finir avec les archaïsmes. Bonne écoute.
Par-delà l'histoire de Catherine Fournier, assiste-t-on à de la récupération politique? Un texte de Laïma A. Gérald, paru le 21 avril 2023 dans Urbania. Je t'avoue que je suis profondément amer et que je me pose énormément de questions face aux réactions de nos élus, me confie Hélène, nom fictif, jointe au téléphone au lendemain de la sortie publique de Catherine Fournier. Hélène, c'est la protagoniste de l'article « Un furtivage clair », une agression sexuelle documentée, pas d'accusation publiée dans Le Devoir par Amélie Pineda. En septembre 2022, le public prenait connaissance de l'histoire de cette femme dont le partenaire a retiré le condom à son insu lors d'un rapport sexuel. Depuis, elle multiplie les démarches pour comprendre pourquoi le directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, refuse de porter des accusations alors qu'il reconnaît qu'elle a subi une agression sexuelle. La femme de 41 ans qui a porté plainte à la police de Longueuil au printemps 2019 considère que la décision relative à son cas constitue une injustice. Depuis, elle cherche à diffuser son histoire et sensibiliser le public via un site web et plusieurs médias sociaux sous le pseudonyme « Je suis Hélène ». Cette semaine, les déclarations de l'ex-élue péquiste et mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, ont fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. En effet, le grand public apprenait mardi que la politicienne de 31 ans était la victime de l'agression sexuelle commise par l'ex-député Harold Lebel en 2017. Je trouve ça courageux de la part de Catherine d'avoir été jusqu'au bout du processus. Et je pense que c'est un modèle, déclarait le premier ministre François Legault dans la foulée. Évidemment, ce n'est jamais facile pour une femme, une personne, d'aller suivre tout le processus des tribunaux. On essaie d'aider le plus qu'on peut les victimes, mais malgré ça, je sais que ce n'est pas un processus qui est facile. Je veux la saluer pour son courage. Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a lui aussi souligné la pugnacité de Catherine Fournier. Ça envoie un message très clair aux différentes victimes au Québec, que c'est important de dénoncer lorsque justice a été rendue. Ça constitue un modèle pour plusieurs personnes. Pour sa part, le chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, a tenu à défendre la gestion de l'affaire au sein du Parti québécois. J'espère que le fait que justice a été rendue et que le système a fait son travail lui donnera une paix intérieure, a-t-il souhaité. En entendant les discours de plusieurs hommes politiques flattant allègrement le système de justice dans le sens du poil, un certain malaise s'est logé dans le creux de ma poitrine et dans celle d'Hélène aussi. Depuis mardi, j'écoute ce que nos politiciens disent fièrement sur l'importance de porter plainte, de dénoncer les agresseurs et sur le succès de notre système de justice en qui on devrait avoir confiance et je suis en colère, raconte-t-elle. Utiliser un seul et unique cas pour témoigner de la réussite du système de justice et se féliciter de la tournure des événements, c'est comme dire « on n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Mais c'est une grande négation, un grand déni de ce que vivent énormément de victimes, dont moi. » Hélène, qui appuie toutefois Catherine Fournier, considère que ces soudains élans de solidarité de François Legault, compte tenu de toutes les failles du système en matière de crimes à caractère sexuel, ont un effet profondément invalidant pour les victimes. Elle parle d'une puissante victimisation secondaire, cette réaction émotive éprouvée par une victime dont les attentes, qui restent sous-jacentes, ne sont pas comblées, ce qui peut provoquer un sentiment de rejet et d'isolement. Quand vient le temps de qualifier les prises de parole de François Legault qui semblent faire une généralité de l'histoire de l'ancienne députée du Parti québécois pour redorer l'image d'un système loin d'être infaillible, Hélène emploie le mot « hypocrisie ». Ce terme est également utilisé par la chercheuse postdoctorale, autrice et documentariste Léa Clermont-Dion, qui a elle-même couvert le sujet dans « T'as juste à porter plainte », une série documentaire suivant le chemin de croix parcouru par les victimes d'agressions sexuelles au sein du système de justice. Oui, je trouve que certains politiciens font preuve d'hypocrisie, évoque-t-elle. Certains démontrent leur solidarité publiquement, alors que dans les dernières années, ils n'ont pas nécessairement offert leur aide ni leur soutien à Catherine, ainsi qu'aux victimes d'agressions sexuelles. En ce sens, peut-on voir une forme de récupération et d'instrumentalisation politique de l'histoire de Catherine Fournier pour se donner bonne conscience? Ou conforter dans leurs opinions ceux qui n'attendaient que ça, pour avoir raison et incidemment discréditer la démarche de celles qui se tournent vers d'autres méthodes, comme les médias sociaux et le mouvement hashtag MeToo, pour dénoncer leur agresseur? Bref, le dossier de Catherine Fournier, aussi courageux et louable soit-il, est-il un cas d'école? Faire œuvre utile. L'ordonnance de non-publication qui interdisait aux médias de diffuser le nom de Catherine Fournier a été levée mardi matin sur ordre d'un juge et sur demande de la victime. Notons toutefois que le 15 décembre 2020, soit 2 ans et demi après l'agression, et malgré la dite ordonnance, il s'est écoulé 62 minutes entre l'arrestation d'Harold Lebel et la communication de renseignements permettant d'identifier Catherine Fournier dans les médias. Ainsi, alors que l'identité de la députée péquiste au moment des faits était déjà bien connue dans les cercles politiques et médiatiques, la politicienne a choisi de reprendre le contrôle du narratif en participant au documentaire « Témoin CF », une prise de parole qu'elle qualifie de bien réfléchie, éclairée et volontaire. « Si je choisis de prendre la parole à partir de maintenant, c'est pour partager mon expérience, faire bénéficier à d'autres personnes de ce que j'ai appris en contribuant à démystifier cet inconnu que représente le parcours d'une personne victime d'agression sexuelle à travers le système judiciaire, en espérant que du positif puisse finalement émerger de ces tristes événements. Faire œuvre utile », écrivait-elle mardi sur Instagram. Vous écoutez, par-delà l'histoire de Catherine Fournier, assiste-t-on à de la récupération politique? Un texte de Laïma A. Gérald, paru le 21 avril 2023 dans Urbania. 1001 failles. Je tiens à le souligner d'entrée de jeu. La démarche de Catherine Fournier, qui utilise sa voix pour défendre les victimes d'agressions sexuelles depuis plusieurs années, est d'une importance capitale. C'est vraiment important de documenter ce qui se passe au cours d'un processus judiciaire, fait valoir Léa Clermont-Dion. Catherine Fournier a un certain pouvoir dans la société en tant qu'élue. Elle met en lumière une problématique cruciale qui nous donne à penser qu'il y a un manque de protection des victimes au sein des partis politiques. En effet, si elle se dit satisfaite de son expérience, considérant avoir bénéficié d'un accompagnement exemplaire et s'être sentie soutenue par le système, Catherine Fournier met aussi en lumière plusieurs ratés. Le bris de son ordonnance de non-divulgation, par exemple. Elle dénonce également le manque de soutien et de solidarité qu'elle a reçu à l'Assemblée nationale dans la foulée de cette affaire. Personne n'a rien dit, personne n'a vraiment posé de questions. J'ai senti un grand manque de solidarité à mon égard, confiait Catherine Fournier en entrevue avec la presse. On voit que Mme Fournier place des critiques assez sévères, notamment face au cafouillage majeur en lien avec le bris de l'ordonnance de non-divulgation, à certains aspects du travail du DPCP, aux délais, aux nombreuses fois où elle a dû revenir en cour pour raconter son histoire, etc., constate Rachel Chagnon, professeure au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal et co-autrice du rapport « Justice pour les femmes marginalisées, victimes de violences sexo-spécifiques ». Je perçois une nuance importante. Madame Fournier fait une distinction entre les personnes qui l'ont accompagnée, que ce soit les inspecteurs, le procureur, les intervenants sociaux et le système lui-même. Aux yeux de Rachel Chagnon, une avocate de formation qui souhaite plus que tout croire au système de justice, en plus de nous aider à avancer comme société, le cas de Catherine Fournier est un exemple de la manière dont les choses se déroulent lorsqu'elles se passent bien. Mais peut-on réellement se baser sur cette histoire pour évaluer la qualité du système de justice? Une success story? En prenant connaissance de la pléthore d'articles, de chroniques, d'éditoriaux et d'entrevues à propos du cas de Catherine Fournier depuis mardi matin, mon réflexe a été de me dire, enfin, une histoire de plainte pour agression qui finit bien. La politicienne a obtenu gain de cause, Harold Lebel a été condamné, c'est inspirant pour toutes les victimes, particulièrement dans une société où tant d'agresseurs passent entre les mailles du filet. Une vraie « success story ». Mais j'ignorais encore le contenu de la boîte de Pandore que je m'apprêtais à ouvrir en m'intéressant à la question. Il faut savoir que seuls 50% des victimes qui vont en procès pour agression sexuelle et qui se rendent jusqu'au bout du processus obtiennent un verdict de condamnation. C'est donc une minorité sur l'ensemble des victimes d'agression à caractère sexuel, me font toutes les deux remarquer Léa Clermont-Dion et Rachel Chagnon. Cette dernière ajoute que dans notre esprit libéral nord-américain, on associe le verdict de culpabilité à une forme de succès du système. Pas que ce soit forcément la volonté de Catherine Fournier de tirer cette conclusion, c'est plutôt une question de mise en scène et de narratif. L'expérience judiciaire peut être constructive sans condamnation, croit la professeure. Ce parcours éprouvant n'est pas fait pour tout le monde. Si on choisit cette avenue, c'est bien de le faire en connaissance de cause et en pleine conscience des limites du système, justement. Évidemment, il marcherait mieux si on avait encore plus de ressources. Rachel Chagnon émet une seconde réserve. Tout en saluant son courage de témoigner à visage découvert, sa contribution à la déstigmatisation des victimes d'agressions sexuelles et surtout, sans rien enlever à la gravité de ce que la politicienne a vécu. Il faut reconnaître qu'une partie du fameux succès de l'entreprise de Mme Fournier découle de qui elle est comme personne. Une jeune femme blanche, éduquée, articulée, forte d'un capital de pouvoir, qui connaît ses droits. Sans jamais cesser de peser chacun de ses mots, Rachel Chagnon fait appel aux théories sur l'intersectionnalité notamment invoquées dans le rapport « Justice pour les femmes marginalisées, victimes de violences sexo-spécifiques ». Selon la professeure, Catherine Fournier se trouverait dans une catégorie de femmes qui ont des chances optimales de succès. Plus on lui retire une à une les caractéristiques évoquées plus haut, moins elle n'a de probabilité d'être crue. En effet, les personnes marginalisées, celles appartenant à une minorité culturelle, sexuelle et de genre, les travailleuses du sexe ou encore les personnes en situation de précarité financière, ont moins de chances d'être prises au sérieux si elles se lancent dans une pareille entreprise. Au fil de l'échange, les mots de Legault, Jolin Barrette et Plamondon me reviennent en tête. Justice a été rendue. Le système a fait son travail. Dire que le système fonctionne à partir de l'unique exemple de Catherine Fournier m'apparaît donc comme un raisonnement très incomplet, conclut Rachel Chagnon. L'immense majorité de victimes d'agression ne présente pas son profil. Malheureusement, le respect, la déférence et la propension à être cru sont tributaires de qui l'on est en tant que personne, ce que des kilomètres d'études démontrent. Et encore là, comme l'a illustré la journaliste Isabelle Haché cette semaine dans la presse, même un haut statut comme celui de Catherine Fournier fait l'objet de commentaires de type « victim shaming ». Pauvre con qui se fait charmer par une petite garce ambitieuse, ou, clairement, elle n'était pas enchaînée à son lit. Rien ne l'obligeait à rester et subir ce qu'elle est dit avoir subi. Elle n'avait qu'à dire non et crisser son camp de là. Ça va, 2023? Dans la foulée au lendemain des déclarations de Catherine Fournier, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, affirmait qu'un « nouveau commissaire au respect » sera nommé et entrera en fonction pour la prochaine rentrée parlementaire. Une initiative concrète et digne d'intérêt. Je terminerai ce texte en saluant, moi aussi, le courage immense et l'engagement essentiel de Catherine Fournier. Et comme me l'a dit Rachel Chagnon, le problème en soi n'est pas de reconnaître le succès de sa démarche, mais c'est de s'arrêter là qui serait un danger. C'était, par-delà l'histoire de Catherine Fournier, assiste-t-on à de la récupération politique? Un texte de Laïma A. Gérald, paru le 21 avril 2023 dans Urbania. Pour en finir avec les archaïsmes, un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru le 20 avril 2023 dans L'Actualité. Le français du Québec est-il archaïque? Plutôt de son temps, nous dit notre chroniqueur. C'est pratiquement un lieu commun de définir le français utilisé en Amérique comme étant archaïque, mais c'est une étiquette trop souvent réductrice et fausse, pour ne pas dire aliénante. Les principaux dictionnaires français, aussi bien le Robert que le Larousse, évitent depuis longtemps ce terme, pour préférer la désignation « vieilli », par exemple, voire « canadianisme » ou « québécisme », quand l'usage d'un terme est limité géographiquement. Mais voilà, l'étiquette archaïque colle aux Français québécois comme la misère sur le pauvre monde. Oui, c'est vrai, les Québécois ont maintenu une foule d'usages considérés comme vieillis ou disparus en France, ou plus précisément dans les dictionnaires parisiens. La liste est longue. Voici quelques exemples en vrac. Menterie, mensonge, être après, être en train de, s'écarter, s'égarer, dispendieux, cher, peignure, coiffure, rapport à cause de, cantatrice, chanteuse d'opéra, couverte, couverture, linge, vêtement. Je ne parle même pas des jurons religieux qui ont disparu du vocabulaire en France à la faveur de la Révolution. Et que dire des vestiges de l'ancien système de poids et mesure, où les livres côtoient les pieds et les verges? Certains usages québécois sont l'expression de régionalisme ancien très marqué en France. De la Normandie, carotté. De l'Ouest, jouqué, juché, ou bardassé. Du Sud, trempe ou déparlé. De l'Est, zigonné. Dans la plupart des cas, ces exemples concernent le vernaculaire, c'est-à-dire la langue parlée ou le français populaire, et beaucoup moins l'écrit. Les innovations québécoises. Or, à trop mettre l'accent sur cet aspect conservateur du français québécois, on en oublie souvent que celui-ci ne se réduit pas au parler des aïeux. Le français du Québec est très innovateur, tant en ce qui concerne la création de mots que celle de sens nouveaux, et n'est donc absolument pas archaïque. C'est ce qui m'a frappé à la lecture du dictionnaire historique du français québécois, dont j'ai parlé dans une précédente chronique, mais aussi en lisant le français au Québec et en Amérique du Nord, aux éditions Ofris en 2022, de France Martineau, Wim Rimissen et André Thibault qui le décrit par le menu. Les innovations remontent à loin. Ce dernier ouvrage, par exemple, cite un missionnaire jésuite du 18e siècle qui s'étonnait du mot « gratte », comme dans « passer la gratte », qui traduisait bien une réalité locale, la neige abondante. Tout comme « poudrerie » ou plus récemment « slutch », forcément, nous avons créé des gradations qui nous sont propres, comme « fret » au sens de « plus froid que froid », et de nombreux vieux termes de marine, « barque »,« calé »,« gréé », »,« prélard », »,« vadrouille », »,« viré », ont connu une explosion sémantique, ce qui signifie que leur sens et leur usage se sont multipliés sur le nouveau continent. Au Québec, tout le monde ou presque, embarque dans son auto et en débarque, ce qui semble étrange aux oreilles des Français. Vous écoutez, pour en finir avec les archaïsmes, un texte de Jean-Benoît Nadeau paru le 20 avril 2023 dans l'actualité. En fait, les innovations et les originalités québécoises se comptent par centaines et ne se réduisent pas au climat et au particularisme de la faune et de la flore, ou encore aux technologies anciennes de la marine à voile ou de l'agriculture sous le régime français. Le français au Québec et en Amérique du Nord ne consacre que 4 pages à la partie « héritage » du français d'ici, mais 20 aux innovations en tout genre. Certes, les terminologues professionnels ont accouché de centaines de termes techniques de « aluminerie » à « wok », en passant par « avionnerie »,« baladodiffusion », »,« clavardage », »,« courriel », »,« égoportrait » et « motomarine ». Mais le génie populaire en produit tout autant, par différents procédés stylistiques et rhétoriques. Robert Vizina, directeur du DHFQ, me cite le mot « beigne », qui a pris au Québec un sens très distinct, une pâtisserie, de celui en France, une taloche. Et par effet de métaphore ou d'analogie, il s'en rajoute constamment, comme l'effet « trou de beigne », exode vers la banlieue. Avoir un beigne autour de la taille, un bourrelet, ou dans le visage, coupe de barbe, ou encore faire des beignes, des traces de pneus, sur l'asphalte. Champlure, au sens de robinet, n'est plus très usuel à Paris, même si le mot est parfaitement compris ici. On lui a toutefois donné un sens beaucoup plus moderne. Ouvrir la champlure, cela veut dire que l'on dépense sans compter. Évidemment, une part des innovations proviennent des anglicismes, dont certains sont anciens, comme « drave », « flottage du bois », du verbe « to drive », alors que d'autres sont bien contemporains, comme « fun » ou le verbe « zipper », lesquels ne sont d'ailleurs pas exclusifs au français québécois. Bref, le français au Québec évolue par son génie propre, l'imaginaire de ses locuteurs, leurs erreurs, leur culture. Cela donne des mots comme poste référendaire, cégep, péquiste ou magasinage, dont certains sont à consommation strictement locale, tandis que d'autres voyagent au point d'être compris ailleurs, voire repris, comme motoneige, par exemple, ou courriel. Les valeurs jouent un rôle considérable dans ces évolutions. Dès la fin des années 1970, le Québec a féminisé plus de 5000 titres et fonctions à l'instigation de Lise Payette, alors ministre de la Condition féminine, qui refusait d'être « Madame le ministre ». Cela fait donc plus de 40 ans qu'au Québec et plus largement au Canada, Madame l'ambassadrice, Madame l'ingénieure ou Madame la capitaine sont les personnes en titre et non pas les conjointes de ces messieurs. Les Français s'en sont moqués un petit moment, mais les Belges puis les Suisses ont adopté le système québécois en l'adaptant à leur réalité. Une mairesse belge est une bourgmestre et une secouriste suisse est une samaritaine. L'Académie française a finalement baissé pavillon en 2019. Les Français et leurs académiciens ne rient plus. C'était, pour en finir avec les archaïsmes, un texte de Jean-Benoît Nadeau paru le 20 avril 2023 dans l'Actualité.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.